بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Alors mes chers frères, inshallah, ce soir on va s'approcher. Putain, les ventilateurs, non, on a beaucoup d'enceintes. On va essayer, inshallah, on va essayer de compléter le tafsir de Sourate al-Rashia, hein, qu'on avait commencé il y a fort longtemps, mais bon, différents concours et circonstances, on a reporté les programmes. Et donc, inshallah, ce soir, on termine le Sourate al-Rashia. Le Sourate al-Rashia, comme tous les sourates du Coran, hein, c'est un sourate riche en contenu, riche en leçons de iman, en leçons spirituelles. Le Sourate al-Rashia, comme l'avait expliqué, commençait par le rappel sur l'au-delà, le rappel sur la résurrection. Et ça, ça fait partie des branches de la foi du musulman, le fait de croire en l'au-delà. Parce que toute cette vie d'action que nous faisons, hein, cette vie de bonnes actions ou alors cette vie d'abstinence que nous faisons, c'est uniquement dans le but de rechercher le contentement d'Allah Azza wa Jal. Et quand est-ce qu'on verra le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le jour où nous serons présentés à lui. Et comment se concrétisera le contentement d'Allah? C'est alors qu'Allah ta'ala décidera que nos livrées nous soient remises dans la main droite et qu'on passe sur le pont, sur le surat à la vitesse de l'éclair et que le mu'min accède au paradis. Ça, c'est la concrétisation du contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est extrêmement important, il est indispensable que le musulman ait une conviction parfaite et inébranlable sur le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier et l'accès au paradis ou l'enfer. Parce que ça, c'est le moteur de ses actions. Si j'ai iman, certitude, yaqin dessus, alors j'aurai la motivation, j'aurai l'envie de faire les bonnes actions. Tandis que si je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a après, je n'ai rien compris de la notion de paradis, d'enfer, de péché, de bonnes actions, de jugement, ben c'est comme si que je pratique ma religion comme une tradition, comme une coutume, et je ne sais pas pourquoi je le fais. Si je le fais, c'est peut-être par héritage culturel, parce que mon père l'a fait, mon grand-père l'a fait, mon arrière-grand-père l'a fait, mais on n'aura pas vraiment la réalité et on ne verra pas l'objectif qu'il y a à travers chacune de ces actions et on risque à un moment donné de ne plus être motivé pour faire de bonnes actions. C'est pour ça que le musulman intelligent, il sait d'où il vient, il sait ce qu'il fait et surtout il sait regarder droit devant lui. Droit devant lui sans trop regarder autour. Il ne va pas regarder autour le dunya, les plaisirs du dunya, les critiques des gens, les difficultés à rester ferme dans sa foi. Il ne va pas trop regarder autour de lui. Il vit dans la vie, dans le dunya avec les êtres humains, bien sûr. Mais il regarde droit devant lui. Il sait qu'il a un objectif. C'est quand il va être présenté auprès d'Allah Azza wa Jal. Et c'est là qu'il va voir si Allah Ta'ala était satisfait de lui ou Allah n'était pas satisfait de lui. Donc le sourate commence par le rappel sur le jugement dernier, la résurrection. Et ensuite, justement, hein, il y a les deux cas de figure, ceux qui seront heureux le jour de Qiyamah par rapport à leur parcours, à leur vécu, l'obéissance aux ordres d'Allah et leur éloignement permanent du haram. Et il y aura l'autre catégorie qu'Allah nous préserve, les personnes qui, le jour de la résurrection, seront malheureux. Malheureux parce qu'ils ont vécu comme ils le voulaient dans ce monde. Et nous voyons beaucoup de gens qui semblent être heureux, hein, qu'ils aient les moyens ou qu'ils aient peu de moyens ou beaucoup de moyens. Ça peut être des célébrités, ça peut être des personnes du showbiz ou des people, les people, n'importe quoi, tout ce qu'on entend. C'est des gens qui, en apparence, ont l'air d'être heureux. Parce qu'ils ont décidé de vivre comme ils le veulent. Ils ont de l'argent, ils ont l'honneur et ils vivent comme ils le veulent. Ils mènent la belle vie avec tout ce qui vient autour. Et on a l'impression que ce sont des gens épanouis, heureux. Mais à travers cette joie qui est apparente, on a déjà vu dans d'autres programmes que il n'y a rien qui peut remplacer le halawatul iman, la tranquillité qu'il y a dans le cœur du mu'min. Et cette chose-là, le kafir ne pourra jamais le trouver, même si c'est l'homme le plus riche, le plus célèbre, le plus aimé, le plus apprécié. Et cette personne qui a vécu comme elle le voulait, sans penser à Allah, son créateur,
ben le jour de la résurrection, ce seront les gens les plus malheureux. Et on avait dit également que la notion de joie et de tristesse de ce monde et la notion de joie et de tristesse de l'au-delà, ce sont là deux choses incomparables. Vaut mieux être pauvre, malheureux, inconnu des gens, opprimé, maltraité, malade, et tout ce que vous voulez, mais le jour de Qiyamah, qu'Allah est content de nous et qu'Allah nous donne accès au paradis, plutôt que dans ce monde être hyper riche, très célèbre, très connu, reconnu des gens. Et le jour de la résurrection, Allah est mécontent de nous et Allah nous châtie. Ça peut paraître cru, ça peut paraître hors contexte, mais comment est-ce qu'on comprend ça? Par un hadith extrêmement important, dans lequel notre prophète nous explique que le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala fera goûter ou fera voir le paradis une seconde à l'homme qui a été le plus éprouvé de ce monde, le plus malheureux des êtres humains, toute époque confondue, le plus pauvre, malade, celui qui faisait le plus pitié, le plus opprimé, il goûtera une seconde ou il verra une seconde le paradis et Allah Azza wa Jalla lui demandera « Est-ce que tu te souviens de tes difficultés dans ce monde ?» On ne parle pas d'une semaine de difficultés, on parle d'une vie de difficultés. Et la personne dira « Oh Allah, je n'ai rien connu dans ce dunya, je n'ai rien connu de mauvais dans ce monde. » Parce que la fraction, la petite seconde qu'il a vue dans le paradis, ça lui a fait oublier tout ce qu'il a pu subir comme difficulté. Et pareil, l'homme le plus heureux de ce dunya, il verra une seconde le Jahannam et il oubliera tous les bienfaits. Parce que l'au-delà, c'est un autre niveau. Tant les joies sont incomparables, mais également les tristesses de l'au-delà, les châtiments de l'au-delà sont incomparables avec ceux qu'on peut connaître dans ce dunya. Donc les deux cas de figure. Et enfin, ce qu'on avait fait la dernière fois, Allah Ta'ala ensuite fait un rappel aux personnes qui ne croient pas en lui. Si seulement ces gens avaient utilisé leur intelligence pour, subhanallah, pour admirer la création d'Allah et méditer sur la création d'Allah afin de déduire par ce qu'ils voient qu'absolument il y a existence de créateur. Si seulement ils avaient observé ce qu'Allah Ta'ala avait créé, ben ils seraient retournés vers la cohérence, l'esprit logique qui veut qu'aucune chose ne peut exister sans qu'il y ait quelqu'un à l'origine. Et l'exemple qui a été donné, c'est l'exemple le plus probant dans la race animale, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, l'exemple du chameau qu'on avait expliqué la dernière fois. Et ensuite, hein, on appelle l'homme à réfléchir sur la création des montagnes, la création de la terre, comme Allah Ta'ala l'a créé, et également la création des cieux. Et enfin, le dernier chapitre, le dernier passage de ce verset sur Surat al-Ghashiya, c'est les versets qu'on a lus tout à l'heure. Fadakir innama anta mudakir. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, eh bien, rappelle. Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Allah Azza wa Jal, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le rappel aux gens, mais en même temps, Allah Azza wa Jal rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a une mission, que propager le dîn d'Allah, ce n'est qu'une mission. Maintenant, la concrétisation de cette mission, ce n'est pas à lui ça. Notre prophète, c'était l'homme le plus parfait, qui avait le plus de qualité, le plus de iman, le plus de foi. Allah lui a ordonné, Allah Ta'ala lui a chargé de rappeler les gens qu'il y a un seul Dieu, qu'il ne faut pas adorer d'autres choses, qu'il faut vivre de l'obéissance d'Allah et le suivre lui en tant que prophète pour avoir le contentement d'Allah. Maintenant, le prophète, son travail, c'est uniquement de propager ce message aux gens. Ça, c'est le côté concret de la da'wah ilallah. C'est l'effort que le prophète a fait, que les sahaba ont fait, que chaque musulman se doit de faire à toutes les époques, quelles que soient les circonstances, le mudhakara, le tablir et le rappel. Ça, c'est le travail du musulman. Ça, c'est le côté concret de la chose. Maintenant, ce travail, son résultat ne dépend pas de nos efforts, ce résultat n'est pas dans nos mains. C'est pour ça que lorsqu'Allah a dit, par exemple, « Fadakir innama anta mudakir » Fais le rappel, mais tu n'es qu'un rappeleur. Hein. Dans le fond, ton travail, c'est la mission qu'on t'a confiée, c'est de faire le rappel aux gens, mais sache, ô Muhammad, que la guidée se trouve uniquement dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le Coran, « Laysa alayka hudahum, walakin Allah yahdi man yasha » De cette Baqara, Allah Ta'ala rappelle, pour sa salam, que la guidée, ce n'est pas, n'appartient pas au prophète. Ce n'est pas le prophète qui décide de guider quelqu'un par sa prêche ou ses discours, mais « walakin Allah yahdi man yasha » Mais c'est Allah Azza wa Jal qui choisit qui il veut guider qu'il veut ramener vers lui, vers le droit chemin, et qui fera partie des gens qui vont suivre le sirat al-mustaqim, et qui seront ceux qui resteront dans le maghdoub alayhim, et qui feront partie des dalin, ou alors des gens qui croiront en d'autres choses, ou qui ne croiront, pardon, en rien du tout. Hada. Donc, fadakir est un petit point qu'on a oublié. Lorsqu'Allah Ta'ala du Prophète, fadakir fait le rappel, les ulama, rahimahoullah, ils disent que Allah Azza wa Jal n'a pas dit au prophète alayhi salatu wasalam de faire un rappel à un groupe de gens particuliers. Le mot dhakir est am, est général. Et ça montre bien que la mission de notre prophète alayhi salatu wasalam était une mission universelle. Cela ne se limitait ni au temps, ni à un espace géographique, ni à une ethnie ou à une race de personnes particulières. C'est ce que certains occidentaux essaient de... À un moment donné, ils ont essayé de faire croire aux gens qui voulaient se convertir à l'islam, ils ont essayé de faire croire aux gens que, pourquoi direz-vous à la religion de Mahomet? Mahomet a été envoyé pour les Arabes. Hein, ils avaient essayé ça avec les gens, les Africains qui se convertissent à l'islam, ou les Asiatiques. Ils disaient que cette religion a été révélée pour les Arabes, vous n'avez rien à voir avec eux. D'accord? Mais ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi, parce que les versets et les textes prophétiques et les exemples de la vie du prophète ﷺ étaient nombreux, et on voyait qu'il y avait des sahaba dans la race africaine, Bilal al-Habashi, dans la race des blancs aussi, de Salman al-Farsi, et d'une manière générale, lorsque ce dîne s'est propagé, on a vu que les gens sont entrés dans la religion d'Allah en quantité. Et ce n'est pas pour rien que la religion est universelle, sachant que c'est le dernier prophète, le dernier livre, la dernière religion. Donc ça, c'est la logique, c'est la sagesse d'Allah Azza wa Jal, que ce dîne, cette dernière mission, elle concerne la totalité de l'humanité. Il aurait été injuste de la part d'Allah que ce dîne concerne que les Arabes, et qu'Allah décide de châtier tous ceux qui n'ont pas accepté cette religion, alors que d'emblée, la religion est limitée aux Arabes. Là, ça aurait été une injustice. Là, on aurait pu dire qu'il y a des gens qui sont créés, et leur destin, c'est d'aller dans le Jahannam, sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit pour changer leur destinée. Mais là, ce n'est pas le cas. Sachant que n'importe quelle personne fait partie de la Ummatu Da'wa. La Ummatu Da'wa, c'est les gens qui sont concernés par le rappel. C'est-à-dire tout le monde. Après, il y a la Ummatu Istijaba, ceux qui ont accepté le rappel. C'est-à-dire les Ahlul Iman, les musulmans. Ahlul Iman, la Ummatu Istijaba, ils sont concernés. Mais la Ummatu Da'wa également est concernée parce qu'ils font partie de la Umma. Et donc, personne un jour ne pourra dire à Allah Azza wa Jal que cette religion ne m'est pas parvenue ou il est impossible. Car Allah Ta'ala a décidé que par la grâce d'Allah, et puis il y a le facteur essentiel qui est la propagation qui est généralisée. La propagation qui, dans cette ummah, n'appartient pas au prophète. La propagation est une mission générale pour chaque porteur de la ilaha illallah. Ce qui fait que cela revient comme une mission qui a été transmise par le prophète à chacun des compagnons, et ainsi de suite, que chacun fasse le rappel à son prochain afin que cette religion atteigne les cœurs dans toutes les contrées, dans tous les pays. Donc, fadakir, hein, c'est un rappel qui est général, fait le rappel à tout le monde. Maintenant, la question, est-ce que tout le monde est sensible au rappel? Là, les ulama expliquent que c'est uniquement les gens pour lesquels Allah a écrit la guidée, dont les cœurs sont ouverts pour accepter le message du prophète alayhi salatu wassalam, les gens dont les cœurs ne sont pas remplis d'orgueil, ces gens-là, le rappel leur est profitable. Car la Coran, فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, le rappel profite aux croyants, aux mu'mines. Cela veut dire que la personne qui n'a pas ces qualités, on pourra leur faire autant de rappels, ces gens-là resteront insensibles. Maintenant, dans le commentaire, le tafsir dit également qu'il faut faire attention. Si nous, en tant que musulmans, quelqu'un nous fait le rappel et que nous nous rendons compte que ce rappel n'a aucun effet sur nos cœurs. Il dit là, il faut faire un compte. Hein, comme il dit, il faut faire un compte avec soi. Là, il faut faire attention, il faut se remettre en question. Si quelqu'un nous fait un rappel qui est construit, ce n'est pas des histoires ou des attentions, des mises en garde qui n'ont ni queue ni tête, un rappel construit dans une circonstance particulière, on nous rappelle la crainte d'Allah par rapport à un péché qu'on fait ou par rapport à une action qu'on délaisse. Quelqu'un vous fait le rappel, et quelqu'un qui a les qualités pour faire le rappel, quelqu'un qu'on estime, qui a les sifat, c'est-à-dire il a les conditions réunies, il vous fait le rappel, et que ses paroles sont concrètes, cohérentes et construites, et malgré ça, nous restons totalement insensibles. C'est-à-dire que cela prouve qu'il y a un manquement de notre iman. Cela prouve qu'il y a un manquement de l'iman parce que logiquement, si le iman était réellement entré dans le cœur serait sensible au rappel. فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Celui qui a iman dans son cœur logiquement est sensible aux paroles d'Allah et sensible aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit que intabih, faisons attention, si nous arrivons, la kalam protège, nous arrivons à ce stade où nous écoutons des paroles, des bonnes paroles, de la prêche, des bayans ou autre chose, et que cela ne nous fait ni chaud ni froid, on ne ressent strictement rien, ça veut dire que vraiment il y a un gros problème au niveau de notre iman. C'est pas qu'on est kafir, mais il y a un gros problème au niveau de notre foi. Et une des possibilités, c'est quoi? Ça c'est de moi, que certainement, ça peut être la cause du cumul, ça peut être les conséquences du cumul de péchés. Nous savons que quand une personne fait un péché, il y a un point de mort qui vient sur le cœur, il fait un deuxième, il y a un deuxième, etc. Tant qu'il ne demande pas ce qu'il est frappe, ben les points noirs cumulent, et puis le cœur devient noir. Mais quand le cœur est noir vraiment, et quand de ce cœur-là, il n'y a pas le moindre amour pour Allah et pour ce prophète, il n'y a que l'amour pour le dunya, le désir de s'accaparer du dunya, etc. Ben assurément, quand on parle d'Allah, on parle du paradis, on parle de l'enfer, ce cœur n'est pas prêt à l'origine. Il n'a même pas envie d'écouter des choses que peut-être il ne croit pas. Alors que les sahaba, les sifat du Coran dit que le mu'min, alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. Le vrai mu'min, c'est qui? C'est quand on parle d'Allah, leur cœur tremble. Et quand on lit les versets du Coran, leur iman augmente et leur confiance en Allah augmente. Ça, c'était le cas de qui? Ça, c'était le cas de tous les sahaba ridwanullahi alayhi majma'in. Dans notre cas, nous, malheureusement, les versets du Coran nous sont lus, on écoute, mais c'est comme si que, bon, on écoute sur le coup, on dit que c'est vrai. On ne dit pas que c'est faux, on dit que c'est vrai, mais on ne voit pas de changement dans notre vie. Ça veut dire qu'il y a, le capteur est en, parce qu'il est en panne, mais le capteur est trop faible. Ce n'est pas le message qui est mauvais. Le message, c'est le message de haqq, de vérité, c'est le même qui a été délivré par le prophète, mais c'est les capteurs qui sont vraiment, vraiment, vraiment trop faibles pour capter donc cette masse de vérité, de lumière, et pour le mettre en pratique. Regardez l'exemple ici, il dit que quand les sahaba, ridwanullahi anhum, devaient voyager, ils allaient voir le prophète pour prendre des conseils, on a déjà expliqué ça. Le prophète disait juste un mot sahaba, il disait « ittaqillah » et la crainte d'Allah de ton cœur, et les sahaba se mettaient à pleurer. Ce n'était pas un grand discours, c'était juste « et la crainte d'Allah de ton cœur ». C'est-à-dire que dans tout ce que tu vas faire, n'oublie jamais qu'Allah Ta'ala est au-dessus de toi. N'oublie jamais qu'Allah Ta'ala t'observe. N'oublie jamais qu'Allah Ta'ala a créé des anges qui sont là pour inscrire tes actions. N'oublie jamais qu'Allah Ta'ala a créé des anges qui se relaient matin et soir, qui rapportent à Allah ce que tu fais le matin, ce que tu fais le soir. Sahaba, ils avaient tout compris. Ils avaient compris le dîn. Ils avaient tout saisi, subhanallah. C'est pour ça que ces deux mots-là, ittaqillah, ça faisait pleurer les sahaba. Les cœurs, c'était des capteurs gigantesques. Vous mettez deux mots, les capteurs, ils les prennent, ils le transforment en lumière et ça se concrétise en amal. Tandis que nous, les capteurs sont miniatures, le bayan sont énormes et on n'arrive même pas à profiter d'un pourcent ou deux pourcents. Même si on en profite, ben au bout de quelques temps, on finit par oublier. Ça veut dire que le iman est faible, faible, faible. Le iman est faible, il y a besoin de travailler ce iman-là pour qu'il soit sensible au rappel du Coran. Donc on revient avec Innama anta mudhakkir, ça on avait expliqué avant donc que la guidée est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Innama anta mudhakkir. Et ce rappel-là, le prophète alayhi salatu wa sallam l'a fait. Depuis que Allah Azza wa Jal lui a révélé Qum fa andir, de Sourate al-Mudhaththir, lorsqu'Allah Ta'ala lui a dit lève-toi et fais le rappel, depuis ce jour, notre prophète n'a jamais, jamais arrêté de faire le rappel aux gens. Que les gens l'écoutaient ou non, que les gens l'appréciaient ou non, que les gens le jugeaient à sa juste valeur ou que les gens étaient injustes et l'opprimaient, il faisait zulm sur lui, le prophète alayhi salatu wa salam a toujours fait le rappel. Et il n'a jamais arrêté jusqu'au dernier moment de sa vie. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam était dans le sakara, tout le monde, dans l'agonie, il disait « As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, hatta ja'ala yugharghiru biha alayhi salatu wa salam » Dans ces derniers moments, les dernières paroles qui sortaient, c'était aux musulmans. La salah, n'oubliez pas la salah et n'oubliez pas ce qu'Allah a mis sous votre responsabilité. Et il faisait le rappel de la salah jusqu'au dernier moment de sa vie. Et il a transmis ce hymne, cette importance de la propagation à tous les sahaba. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il est dans les derniers moments de sa vie, il saigne abondamment. Omar qui avait été assassiné, vous savez, et dans les derniers moments de sa vie, les gens viennent le rendre visite. Ils viennent rendre visite à Amir al-Mu'minin pour une dernière fois. Il y a un jeune homme qui vient, qui fait salam à Omar ibn al-Khattab, il sort. Et en sortant, Omar s'aperçoit que ce jeune homme, quand il marche, hein, son pantalon ou son vêtement inférieur descend trop bas au niveau de celui. Omar, dans les derniers moments de sa vie, dit au sahaba, rappelez le jeune homme, ramenez-le. Alors que pour voir Omar, vraiment, il fallait venir, faire salam et sortir. Combien de musulmans voulaient voir Amir al-Mu'minin? Et donc, le jeune homme revient, et là, Omar ibn al-Khattab, il fait le rappel à ce jeune homme que sache que ton pantalon est trop, descend trop bas, et relève donc ton pantalon, tu auras le contentement d'Allah, et ce sera mieux pour toi. Il fait le rappel, il explique quelle est l'importance de, pour un homme d'avoir le pantalon au-dessus de la cheville, et quels sont les péchés, les conséquences d'avoir le pantalon au-dessus de la cheville. C'est une anecdote, subhanallah, à nous de faire un mal dessus aussi, bien sûr. Mais là où on veut en venir, c'est que jusqu'au dernier moment de leur vie, les sahaba, ridwanallahi alayhim ajma'in, ils ont hérité de cette importance de la propagation, du rappel à faire au à leur prochain. Et quand je disais tout à l'heure que la da'wa est âme, elle est générale, subhanallah, il y a 10 jours, on avait expliqué ça ailleurs, il y a 10 jours quand il y avait les diplomates qui étaient là pour les visas de hajj. On avait les diplomates qui étaient venus de Riyad, du ministère, pour donner le visa aux réunionnais ici. C'est une première depuis 10 ans, c'est alhamdulillah. J'étais avec une des personnes, cette personne venait d'un endroit qui s'appelle Daumatul Jandal. Il y avait une bataille là-bas, Daumatul Jandal, c'est tout au nord de l'Arabie, c'est loin ça, très très loin. Il venait là-bas, il venait de Riyad. On était ensemble, on avait pris la voiture, on était parti faire voir un petit peu le paysage de la Réunion et tout, subhanallah. On a aussi médité sur la grande... Toute la route, subhanallah, c'est du tasbih, subhanallah. Je n'avais jamais vu des choses comme ça. Et donc, on est arrivé d'Aléo de Salazie, d'Aléo de Elbourg, un petit kiosque, un noir connaît ça, Salazie, connaît, d'Aléo, Salazie, Elbourg, et on s'est arrêté, on a bu un petit café et tout, une ambiance, mashallah, il était vers 5h, il faisait beau, il faisait bon, il y avait un petit air frais, on était à côté d'une rivière qui coulait. Comprenez que, pour eux, c'est du jamais vu, ça. C'est des gens qui n'ont peut-être pas vu la mer. Regarde, il n'y a pas de mer. Daumatul Jandal, c'est la frontière avec, je ne sais pas quel pays qui est en haut, je ne suis pas trop fort en géographie. Mais hein, bon, ils ont été attachés consulats en Italie, dans différents pays, donc ils ont vu d'autres choses, mais ils m'ont dit que ce qu'ils ont vu là, ils n'ont jamais vu ailleurs. Bref, on n'a pas fait du tourisme. Le but, c'est quoi? Ils me disaient que Ibrahim regarde ça, subhanallah. Là, on est en train de discuter, on est en train de parler d'Allah. Depuis le début, on parlait que d'Allah. Des gens qui ont un niveau de ilm, ils sont dans les affaires, hein, c'est des diplomates, mais le ilm, Allah les a donnés, subhanallah. Ils disaient que, subhanallah, on est en train de parler de la grandeur d'Allah, de la création d'Allah, et. Lorsque, je vais donner un exemple, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Je connais, je l'enseigne aux enfants madrasa, depuis je ne sais combien d'années, subhanallah. Mais il n'y a jamais eu le déclic vraiment, on n'a jamais pris conscience de la réalité de la chose. Et c'est quand quelqu'un vous le dit, que vous dites, subhanallah, c'est vrai. Il dit que regarde, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, au début à Makkah, le premier da'wah qu'il a fait à l'étranger, c'était vers qui? Vers Taif. Et Taif, c'était comment s'appelait la tribu, les Banu Thaqif. Et la personne qui me parle, il est originaire de Banu Thaqif. Il m'a dit que je suis descendant, il n'a pas dit à tout le monde ça, il a dit je suis descendant des Banu Thaqif. C'est-à-dire les gens qui ont agressé le prophète, alayhi salatu wassalam, les Ahl al-Taif. Et là, subhanallah, c'est quelqu'un qui vient d'un visa pour les gens, ils vont faire droit devant la Kaaba, ils vont lever les mains, il y a Mu'arafa. Regardez comment Allah, ce taqdir est énorme, subhanallah. Si le prophète voulait que ces gens mouraient quand il l'avait frappé, il aurait dit au Djibril ou alors au l'ange en montagne, vraiment, écrase les bains à l'archabain, comme il a été proposé. Mais vrai dit non, Inch'Allah, de la descendance, il y aura des gens qui auront iman en Allah. Subhanallah, la concrétisation de son doigt, quelques générations après, même, on ne va pas entrer dans les détails, Taif n'a pas été conquis, ça. Même après, quelle bataille encore, subhanallah, les musulmans, ils sont. Hein? Après Hunayn, la bataille de Hunayn, il y avait les Hawazin et les gens de Taif. Et les gens de Taïf se sont enfuis à la fin, lorsque les musulmans commencent à gagner, ils sont enfuis pour retourner vers Taïf. Et Taïf, c'est dans la montagne, c'est un peu comme Sidar, Taïf. Ils avaient des forteresses, ils sont restés enfermés dedans. Et Allah a voulu que le Prophète et les Sahaba, ils ont fait le siège, mais à un moment donné, le Prophète est retourné à Madinah et les Sahaba. Taïf n'a pas été conquis. Allah voulait que les gens de Taïf acceptent l'islam de leur propre gré. Et c'est la concrétisation du doua du prophète, alayhi salatu wassalam. Et maintenant, regardez la descendance. Il y a quelqu'un qui sort depuis Daumatul Jandal, qui fait 7000 km jusqu'à nous, pour donner un tampon, un étiquette de votre passeport, pour aller faire doua, vous trouvez. Et il disait donc, c'est pas ça une anecdote, mais elle est pas mal aussi celle-là. Il disait que, subhanallah, lorsque le prophète est allé à Taïf, il a été chassé par les Banu Thaqif et agressé. Et il avait dit aux gens de Taïf qu'un jour ce dinar se propagera dans le monde entier. Et ils se sont mis à moquer de lui. Il dit comme Mohammed, comment tu peux penser, tu peux rêver que ton message arrive dans le cœur des gens de tous les continents, alors que nous, nous sommes tes premiers voisins. La première localité après Makkah, plus proche de Makkah, c'est Taïf, à une heure de route maintenant, c'est-à-dire à 100 km. Il a dit, nous sommes les plus proches de vous. Et nous, on est en train de te refouler, de t'agresser, de te jeter des pierres, et tu oses penser que ce dîn arrivera dans tous les continents, c'est n'importe quoi. Il aurait fallu que nous, on accepte avant, ensuite le village d'après, etc., etc. Mais dès le départ, on te coupe net le chemin. Comment ton dîn va se propager? Ne rêve pas, en ce sens, c'est moi qui utilise mes propres termes. Elle dit, Hérodas, subhanallah, on est à l'île de la Réunion, à 7000 km de la Kaaba, dans un endroit perdu, un petit morceau de caillou, dans un village, dans les hauts, je ne sais où, comment il ne sait même pas comment ça s'appelait. Et là, on est en train de parler d'Allah, ça c'est le Mu'ajiza, l'annonce du prophète, mais effectivement, de cet endroit, Allah Akbar, il y a dîn, il y a des gens qui adorent Allah, c'est la Risala qui s'est propagée. Et il n'y a pas eu une idéologie, ni une philosophie, ni un parti politique, ni rien du tout qui s'est propagé d'une manière universelle comme l'islam et qui a, subhanallah, qui a été présent dans toutes les générations, tous les siècles et qui perdurera jusqu'au Qiyamah, jamais de la vie. Si ce n'est le haq, la vérité. Et aucune religion non plus n'a tenu à travers le temps ou alors a pu se propager tout espace confondu. Regardez la religion des Yahoud. On ne devient pas Yahoud. Non. Il y a quelqu'un qui ne peut pas, il va peut-être pratiquer, mais il ne sera jamais reconnu comme un Yahoud. Parce que c'est une religion qui est réservée à une élite, à une population particulière. C'est leur religion à eux. Regardez Nasara, ça c'est par rapport au Kabila, maintenant Nasara par rapport au temps, par rapport à l'espace. Regardez comment ils ont eu des divergences jusqu'à ce que, subhanallah, on ne retrouve plus le message original de Isa alayhi salam. Mais notre dîn à nous, subhanallah, il est resté intact. C'est le même Coran, c'est les mêmes paroles qui sont écrites dans les livres, qui ont été prononcées par le prophète alayhi salatu wassalam depuis 1500 années dans toutes les régions du monde. Le Coran est traduit dans toutes les langues qu'on peut imaginer, dans les dialectes, dans les patois, dans tous les créoles, dans n'importe quelle langue locale aussi. Ça c'est le mu'ajiza du prophète alayhi salatu wassalam. C'est le miracle, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va pas tarder, il faut absolument terminer Al-Ataka ce soir. Hada. Et donc on continue donc. Et même dans les moments de difficulté, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas arrêté la propagation, que ce soit Uhud, que ce soit Taif, dans tous ces moments difficiles. Hein, et ça nous prouve bien que le da'i ilallah, il ne tient pas compte des difficultés. Parce que son travail, c'est d'émettre. Maintenant, les difficultés qui viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il a su faire preuve de sabar, cela donnera encore plus d'ampleur au résultat de sa prêche, encore plus de sincérité au résultat, inshallah, de son travail. Mais en aucun cas, le da'i se dit que si les gens ne veulent pas, je vais me faire bien voir ou je vais arrêter là, Allah. Notre prophète, s'il avait pensé comme ça, quand il avait vu la réaction des Ahlul Taif, nous ne serions pas musulmans aujourd'hui à l'île de la Réunion. Allahu Akbar. Et deuxième point, on doit bien comprendre quand on dit que la guidée est dans les mains d'Allah, hein, lorsqu'il a dit le Coran également, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ. Allah Ta'ala savait que le croissant était attristé de voir que les gens n'acceptent, que certaines personnes n'acceptent pas son message. Mais Allah Ta'ala fait bien comprendre que la guidée c'est dans ses mains et pas par le discours du prophète. Et ça nous fait comprendre également que quand on voit que la prêche parfois n'a pas d'effet sur des personnes, en aucun cas cela ne prouve que le da'i est mauvais. Non. Cela ne prouve pas non plus que le da'wa n'est pas bon. Non plus. Parce que regarde le prophète avec son propre oncle. Bidnillah, il n'a pas eu la guidée parce qu'Allah ne le voulait pas. Regardez Hazrat Nuh alayhi salam et son fils qui n'a pas eu la guidée. Nuh qui a invité les gens vers Allah pendant 950 années, matin et soir, en public, en privé, dans toutes les circonstances, et son propre fils n'a pas accepté son message. Et l'autre, alayhi salam, sa propre épouse, sa propre femme, n'a pas accepté son message. Ça, c'est la volonté d'Allah. Cela ne remet en aucun cas en cause la qualité du da'i, ni le message qui a été propagé. « Lasta alayhim musaytir illa man tawalla wa kafar. » On va continuer ça la prochaine fois, Inch'Allah. C'est suffisant parce qu'on ne peut pas bâcler ça. On avait dit qu'on avait terminé. Je n'avais pas dit Inch'Allah. Vous voyez ? J'ai fait la même erreur que Gog et Magog. D'accord ? On n'a pas dit Inch'Allah. On en a 30 minutes. Parce que ça il faut bien expliquer ça. فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ Ça, il faut bien expliquer. Également, إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ C'est des versets extrêmement puissants, très forts, qu'on ne peut pas zapper. Inch'Allah, qu'Allah nous tawfiq de continuer ça la prochaine fois. Donc également, là, subhanallah, hier, c'était jeudi. Jeudi, on avait les premiers pèlerins réunionnais qui sont partis. On ne dit pas dans tes groupes, hein. On ne fait pas de la pub pour personne. Il y avait les premiers pèlerins réunionnais qui sont partis. Aujourd'hui, il y a un groupe, le groupe le plus important qui est parti. Et demain également, ou lundi, je crois, lundi, il y a également une autre partie qui va se rendre, Inch'Allah. Ils seront à peu près 200 réunionnais à répondre la bec, à être présents le jour d'Arafat pour faire doigt devant la Kaaba et pendant le Wukouf. Le stationnement de Arafat. Il faut faire doigt qu'Allah nous choisisse nous aussi. Hein. Il faut remettre ça à Ibrahim. Hein, on fait un hajj ensemble. Anwar, il faut, Inch'Allah, qu'Allah nous accepte. Peut-être que cette année, on n'avait pas les sifat, on n'avait pas les qualités. Mais qu'Allah Ta'ala nous choisisse pour que les autres années, Inch'Allah, qu'Allah nous amène vers sa maison. Alors nous, je ne dis pas qu'on est les perdants, mais bon, le lot de consolation, c'est pas mal du tout. Hein, c'est pas mal non plus. C'est les 10 jours de l'Hijjah qui approchent. On est le 26, je crois, aujourd'hui, ou le 27, peut-être même le 28. Donc, on va bientôt chercher la lune. Et donc, on va entrer dans cette... On peut appeler ça une décade, hein, parce que c'est composé de 10 jours. C'est le prophète, alayhi salatu wasalam, très rapidement, hadith de Jabir, dit, « Inna afdala ayyam id-dunya ayyamun ash » que les meilleurs jours de ce dunya, ce sont ces 10 jours de l'Hijja. Hadith, et dans une citation de Ka'am, « Allah Ta'ala choisit le temps. « Fa ahabbu zaman ila Allah al-shahr al-haram » et le moment le plus aimé par Allah, ce sont les mois sacrés. « Wa ahabbu l'ashur al-haram ila Allah al-hijja » Et le mois le plus aimé parmi les mois sacrés auprès d'Allah, c'est le mois de Dhul-Hijja. Et wa ahabbu Dhul-Hijjati ila Allah, et la période la plus aimée parmi les Dhul-Hijja, al-ashr al-awwal, ce sont les 10 premiers jours. Donc les hadiths et les commentaires des sahaba prouvent bien que les 10 jours de Dhul-Hijja, ce sont certainement les 10 jours les plus importants du calendrier musulman. Les 10 jours les plus profitables pour le mu'min. À tel point que certains ulama, enfin certains, beaucoup d'ulama sont d'avis que les 10 jours de Dhul-Hijja ont plus de valeur que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que les 10 derniers jours du mois de Ramadan se distinguent par la présence de Laylatul Qadr, qui est une nuit parmi les 10 nuits de Ramadan. Tandis que les 10 jours de Dhul-Hijja sont tous égaux en valeur et en vertu, en fada'il. Donc c'est un moment extrêmement important que nous allons vivre d'ici quelques temps. Et ce qui est demandé à chaque musulman, c'est de faire le maximum de bonnes actions pendant cette période. Hein. Le prophète dit, hadith ibn Abbas, « Ma min ayyamin al-amalu salihun fiha habbu ilallahi min hadil ayyam » Rawi al-Bukhari. Et il n'y a pas une période de l'année où les actions sont plus aimées par Allah que cette décade, que la décade, les 10 jours de Dhul-Hijjah. Alors qu'est-ce que je dois faire moi en tant que musulman? Ben, le maximum de bonnes actions, de salat, bien sûr, en jamad, les nawafil, qiyamul layl, tahajjud, lecture du Coran, des couloirs, c'est-à-dire comme on faisait les efforts pendant le mois de Ramadan, on essaie de retrouver cette motivation, et plus encore. Le prophète, de certaines choses, il dit que kana an-nabiyyu alayhi salatu wassalam la yada'u siyam ashura wal ashri wa thalathati ayyam min kulli shahr. Le prophète n'abandonnait jamais le jeûne de Ashura, ainsi que les 10 jours de Dhul-Hijjah, et ainsi que 3 jours de chaque mois. Alors là, il y a divergence dessus. Certains savants sont d'avis, en comparant différents hadiths, qu'il est masnoun de jeûner la première décade. D'autres sont d'avis qu'il n'est pas forcément masnoun. Mais si, subhanallah, n'a pas fait de jeûner pendant les Dhul-Hijjah, c'est tant mieux. Parce qu'on doit faire le maximum de bonnes actions. Maintenant, quand on dit de jeûner les 10 jours, bien sûr, c'est 9. D'accord? Parce que le 10e jour, c'est le jour de Bakrid, on ne jeûne pas. Allez, maintenant, si on ne jeûne pas les 10 jours, hein, on n'a pas la possibilité, pour quelconque raison, ben, essayons quand même de jeûner le lundi, le jeudi de cette décade. Au moins, on met une sunnah en pratique dans le moment le plus important. Et surtout, ça, en aucun cas, on n'a le droit de louper ça, jeûner le jour de Arafat. Jeûner le 9e de l'Hijja, le jour de Arafat, pour la réunion, ça dépend quand est-ce qu'on va trouver la lune. Ça sera, je pense, soit un mardi ou un mercredi, ou un lundi ou un mardi, je ne sais pas, il faut voir le calendrier. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a expliqué que bon, il y avait les vertus du Yom Arafah, on ne va pas parler de tout ça. Le siyam du Yom Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa allati ba'dahu, rawahu Muslim. J'espère que par le biais du jeûne de Arafat, Allah Azza wa Jal pardonne à chaque musulman les péchés de l'année passée, écoulée, et les péchés de l'année suivante, Inch'Allah. Donc c'est énorme ça. Juste en jeûnant une journée, on a la possibilité d'avoir deux années de péchés qui seront effacées. Et ça, c'est la clémence d'Allah Azza wa Jal. Nous sommes conscients des vertus de l'Aylatul Qadr. Tout le monde le sait, mais ça aussi c'est important. D'accord ? Et les ulama disent qu'il est masnoun pour celui qui n'est pas pèlerin, celui qui est chez lui, qui ne fait pas le hajj, qu'il jeûne. Le pèlerin, il est mieux qu'il ne jeûne pas. Parce qu'il a besoin de toutes ses forces pour le coup faire la fête. On ne peut pas se concentrer dans les doigts si on a faim, on est fatigué. Hein, là, c'est notre contexte. Mais pour celui qui ne va pas au hajj, comme les masakines qui sont là, comme nous, hein, donc, ben, jeûner le jour d'Arafat, ne serait-ce un jour. Le jour d'Arafat, ça c'est extrêmement important. Et le takbir qu'on va lire, etc. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, nous donne la possibilité de faire beaucoup de bonnes actions de cette période-là, et de jeûner le jour d'Arafat, et qu'Allah nous amène là-bas à Makkah al-Mukarrama et au Wukuf Arafat, hein, pour le hajj de l'année 2011, Inch'Allah. Tous ceux qui sont là, Inch'Allah, on sera là-bas ensemble l'année prochaine, sous la tente Amina, et on fera les explications comment est-ce qu'on va vivre le Wukuf Arafat dans quelques jours. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin, jazakumullah.